Sur les plages atlantiques, les épaves constituent l'habitat préférentiel du plus grand des forficules de nos régions, l'Abidura riparia, qui atteint 4 cm. Il colonise aussi les bords de certaines rivières et les plages méditerranéennes. Il passe la journée à l'abri de la lumière. Dérangé, il prend une posture défensive. Prédateur polyphage, il attaque aussi bien les puces de mer, part importante de son alimentation, que des myriapodes, ici Pachymerium. Il consomme également des pupes de diptères, et des coléoptères, comme Eurynebria. L'Abidura apparaît ici sous une forme pigmentée. Il s'agit d'un individu de souche méditerranéenne maintenu en élevage. Le Tenebrionid xanthomus constitue une proie fréquente en automne. Ce régime alimentaire varié explique pour une part la vaste répartition mondiale de l'Abidura. Le cannibalisme, enfin, existe aussi bien dans la nature qu'en élevage. Il n'est pas rare en trimago. Mais les œufs et les larves en sont les victimes les plus fréquentes. Le grillon domestique va nous servir pour une analyse plus précise de la prédation. La proie, repérée par les antennes, déclenche la poursuite. Les contacts antennaires, ici ralentis 8 fois, semblent intervenir plus que la vue dans l'orientation. Après un léger recul, les pattes postérieures se tendent, font basculer l'abdomen et facilitent l'approche du forceps qui se referme sur la proie. Le forficule maîtrise définitivement le grillon, qu'il dilacère de ses pièces buccales broyeuses, le maintenant d'abord par les pinces, puis par les pattes antérieures. Après le repas, il procède à un nettoyage minutieux. C'est dans un terrier comme celui dont nous découvrons l'orifice qu'il passera ensuite la journée. Nous voyons ici, en terrarium, la galerie ouverte aux deux extrémités. Un très net dimorphisme permet de reconnaître les sexes. Chez la femelle, les pinces sont courtes, droites, garnies de dents internes, très rapprochées à leur insertion sur le dernier segment abdominal étroit. Chez le mâle, les cercles plus écartés, armés d'une seule dent, sont de taille variable mais toujours grande. Le pénis est bifide. Cette structure est jugée primitive chez les dermaptères. L'activité sexuelle se manifeste tout au long de la vie imaginale. Une parade précède l'accouplement. Le premier contact s'établit par attouchements antennaires. La femelle s'immobilise. Forceps relevé, le mâle frotte sa plaque sous-génitale sur tout le corps de la femelle par série d'attouchements rapides. Il se retourne par intervalle pour l'explorer de ses antennes. Il limite enfin ses contacts à la partie postérieure de la femelle. Tant qu'elle maintient le forceps plaqué au sol, la parade peut se prolonger ou s'interrompre. Si elle est réceptive, elle lève les cercles et les écarte légèrement. Par une torsion de l'abdomen, le mâle peut alors s'accoupler. Les deux insectes, le mâle maintenant à droite, demeurent une demi-heure à une heure dans cette posture. L'immixtion d'un congénère provoque le déplacement du couple. Jusqu'à la ponte, la femelle peut s'accoupler plusieurs fois. Les spermatozoïdes sont stockés dans une spermathèque. Simultanément, l'ovogenèse progresse, poids et taille augmentent. Un jour avant la ponte, le comportement se modifie profondément. La femelle cherche à s'enfuir. Son activité, d'abord désordonnée, s'organise autour de la future galerie. Les pattes dégagent alors activement le sable. Les parois transparentes d'un terrarium permettent de suivre la progression du travail. Les allées et venues se succèdent sans interruption. La femelle arrache le sable, le rassemble en une boulette qu'elle saisit entre ses mandibules et qu'elle évacue à l'extérieur. Une galerie étroite s'approfondit. Son extrémité est finalement élargie en une chambre plus spacieuse où la femelle s'enferme. Le creusement a duré 5 à 6 heures. L'accumulation de boulettes se manifeste à l'extérieur par la présence d'un dôme de sable. La galerie primitive est complètement obstruée. Dans le terrier, bien isolé des variations du milieu extérieur, la femelle reste active. De son labre, elle tasse le sable des parois. La ponte suit. Les œufs sont émis un à un, selon un rythme variable, lent au début et à la fin, plus rapide au milieu de la ponte. La femelle expulse 60 à 90 œufs en 10 à 12 heures. À chaque émission, elle recule, saisit l'œuf et le transporte sur le reste de la ponte où elle le lèche longuement. L'ouverture d'un terrier permettra de mieux observer ce comportement particulier, exceptionnel chez les insectes solitaires, mais général chez les forficules. Dans ce comportement complexe, plusieurs mouvements particuliers s'enchevêtrent. Au léchage, qui en est l'acte essentiel et le plus fréquent, se mêlent des frottements des tarses antérieures. Périodiquement, la ponte est aussi brassée. Les antennes et les palpes explorent fréquemment les œufs. Ils sont ainsi débarrassés des spores de champignons du sol. Sans cette intervention, ils se couvriraient de moisissures et avorteraient. La salive pourrait avoir des vertus antibiotiques, mais la valeur biologique des soins repose essentiellement sur leur action mécanique. Pendant le léchage, les lacinia maxillaires très mobiles, noirs, sclérotinisés, brossent le corion de leurs soies internes. Ralentis deux fois, les mouvements s'observent plus facilement. D'avant en arrière, on distingue les palpes maxillaires longs qui explorent et font tourner l'œuf, les lacinia plus courtes, animées de mouvements réguliers, et les palpes labiaux plus réduits qui soutiennent l'œuf. Pendant cette période, tout objet lisse et arrondi déclenche les soins de la femelle. La bille de verre posée ici sur la ponte est palpée et léchée. Les œufs sont soignés durant toute l'incubation par période de 10 à 20 minutes. Dans les intervalles, la femelle reste inactive ou se nettoie longuement. Le creusement d'un terrier de ponte, les soins aux œufs et l'arrêt de toute alimentation caractérisent un état psychophysiologique particulier qui peut disparaître sous l'effet de perturbations encore mal définies. La femelle peut alors dévorer sa ponte. Cet état est caractérisé par une agressivité permanente. Un mâle introduit dans le terrier est repoussé, harcelé et finalement chassé. Une jeune larve déposée sur une ponte récente est dévorée. Plus tard, deux ou trois jours avant l'éclosion, l'état de la femelle se modifiera. Elle acceptera alors le voisinage des jeunes. Le développement de l'œuf s'effectue en une dizaine de jours à 25 degrés centigrades. À 5 jours, l'embryon déjà bien constitué, pourvu des ébauches d'appendice, est peu visible au travers des enveloppes. Peu après, l'œuf absorbe de l'eau et grossit rapidement. À côté du premier, l'œuf de 7 jours présente un gonflement très net. La jeune larve est déjà formée, on en discerne la morphologie. La pigmentation de l'œil est commencée. À 9 jours, elle est terminée. L'éclosion a lieu le lendemain. La jeune larve dégage d'abord la tête et, thorax en avant, pattes et antennes le long du corps, elle se libère lentement par ondes de contraction successives. Les pattes commencent à s'agiter. Les efforts se poursuivent une à deux minutes. Les antennes se libèrent enfin. La larve parvient à prendre appui. En quelques minutes, elle se redresse et prend une position normale. Elle est alors totalement dépigmentée. Sa morphologie diffère peu de celle de l'imago, mais l'antenne ne compte que 8 articles. Le thorax est dépourvu d'élytres et d'ailes, et les cerques grêles sont dans ce premier stade hérissés de soie. L'éclosion de toutes les larves dure une douzaine d'heures. Pendant ce temps, la femelle poursuit les soins. Les larves se pigmentent rapidement. Première activité, elle dévore les corions vides et les œufs avortés. Dans les 3 ou 4 jours qui suivent, la femelle demeure auprès des jeunes qui recherchent son contact et tendent à se grouper. Plusieurs pontes marqueront ainsi la vie de la femelle, entraînant les mêmes modifications de comportement. Après chaque cycle, elle abandonnera le nid pour retrouver ses activités habituelles. Les larves se disperseront et mèneront une vie solitaire. Le développement larvaire s'effectue par mues successives en 2 mois environ. Du 1er au 5e stade, la taille passe de 5 à 20 mm. Les articles antennaires se multiplient. Le dimorphisme des forceps s'accentue. À ce dernier stade, les ébauches alaires sont bien développées. Nous suivrons le phénomène de la mue sur 2 larves de stades différents. Celle de ce premier exemple commence sa mue du 3e au 4e stade. L'insecte s'est immobilisé. Des contractions de l'abdomen préparent la sortie. Sous la pression, au niveau du thorax, la ligne ecdysiale claire, zone longitudinale de plus faible résistance, éclate. L'insecte s'extrait de son exuvie par cette déchirure qui s'élargit progressivement. Le tégument se rompt le long des sutures de la capsule céphalique. La mue imaginale se déroule de la même façon, mais la présence des élytres et des ailes postérieures la rend plus difficile. Rétabli sur ses pattes, l'imago dépigmenté se déplace bientôt. Il se dégage totalement et abandonne sa dépouille. Dans les heures qui suivent, les ailes encore froissées se déploient et sèchent. Les téguments se colorent. L'œuf s'est développé en 10 jours, la larve en 2 mois, l'adulte vivra 3 ou 4 mois.